Les documents d'un règne.
Une heure après que Nogaret eut rendu l'âme, messire Alain de Pareil, accompagné de Maillard, le secrétaire du roi, vint se saisir de tous les documents, pièces et dossiers qui se trouvaient en la demeure du garde des Sceaux. Puis le roi lui-même fit une dernière visite à son ministre. Il ne resta devant le corps qu'un temps assez bref. Ses yeux pâles fixaient le mort sans ciller, comme lorsqu'il lui posait sa question habituelle « Votre conseil, Nogaret ?» Et il semblait déçu de ne plus avoir réponse. Philippe le Bel, ce matin-là, n'accomplit point sa quotidienne promenade à travers les rues et les marchés. Il rentra directement au palais où il commença, aidé de Maillard, l'examen des dossiers pris chez Nogaret et qu'on avait déposés dans son cabinet. Bientôt, Enguerrand de Marigny se présenta chez le roi. Le souverain et son coadjuteur se regardèrent et le secrétaire sortit. « Le pape au bout d'un mois, dit le roi, et un mois après Nogaret ?» Il y avait de l'angoisse, presque de la détresse dans la façon dont il avait prononcé ces mots. Marigny s'assit sur le siège que le souverain lui désignait. Il resta un moment silencieux, puis il dit « Certes, ce sont d'étranges coïncidences, sire, mais de semblables choses arrivent sans doute chaque jour, dont nous ne sommes pas frappés parce que nous les ignorons. Nous avançons en âge, Enguerrand. C'est une malédiction suffisante. » Il avait 46 ans, Marigny 49. Peu d'hommes à cette époque atteignaient la cinquantaine. Et il faut faire tri de tout ceci, reprit le roi en montrant les dossiers. Ils se mirent au travail. Une partie des pièces serait déposée aux archives du royaume, dans le palais même. D'autres, qui concernaient des affaires en cours, seraient conservées par Marigny ou remises à ses légistes. D'autres, enfin, par prudence, iraient au feu. Le silence régnait dans le cabinet, à peine troublé par les cris lointains des marchands et la rumeur de Paris. Le roi se penchait sur les liasses ouvertes. C'était tout son règne qu'il voyait repasser devant lui. 29 années pendant lesquelles il avait administré le sort de millions d'hommes et imposé son influence à l'Europe entière. Et brusquement, cette suite d'événements, de problèmes, de conflits, de décisions lui parut comme étrangère à sa propre vie, à son propre destin. Une autre lumière éclairait ce qui avait fait le travail de ses jours et le souci de ses nuits. Car il découvrait soudain ce que les autres pensaient et écrivaient de lui. Il se voyait de l'extérieur. Nogaret avait gardé des lettres d'ambassadeur, des minutes d'interrogatoire, des rapports de police. Toutes ces lignes faisaient apparaître un portrait du roi que celui-ci ne reconnaissait pas, l'image d'un être lointain, dur, étranger à la peine des hommes, inaccessible aux sentiments, une figure abstraite incarnant l'autorité au-dessus et à l'écart de ses semblables. Plein d'étonnement, il lisait deux phrases de Bernard de Cessé, cet évêque qui avait été à l'origine de la grande querelle avec Boniface VIII. « Il a beau être le plus bel homme du monde, il ne sait que regarder les gens sans rien dire. Ce n'est ni un homme ni une bête, c'est une statue. » Et il lut aussi ces mots d'un autre témoin de son règne, « Rien ne le fera ployer, c'est un roi de fer. » « Un roi de fer, » murmura Philippe le Bel. « Ai-je donc su si bien cacher mes faiblesses, comme les autres nous connaissent peu, et comme je serai mal jugé ?» Un nom rencontré le fit se souvenir de l'extraordinaire ambassade qu'il avait reçue au début de son règne. Rabban Kaumas, évêque nestorien chinois, était venu lui proposer de la part du grand khan de Perse, descendant de Gengis Khan, la conclusion d'une alliance, une armée de 100 000 hommes et la guerre contre les Turcs. Philippe le Bel avait alors 20 ans. Quelle griserie pour un jeune homme que la perspective d'une croisade où participeraient l'Europe et l'Asie, quelle entreprise digne d'Alexandre. Ce jour-là pourtant, il avait choisi une autre voie. Plus de croisades, plus d'aventures guerrières, c'était sur la France et la paix qu'il avait résolu d'exercer ses efforts. Avait-il eu raison? Quelle eût été sa vie et quel empire eût-il fondé s'il avait accepté l'alliance avec le khan de Perse? Il rêva un instant d'une gigantesque reconquête des terres chrétiennes qui aurait assuré sa gloire dans la suite des siècles. Mais Louis VII, mais Saint-Louis avaient poursuivi de semblables rêves qui s'étaient tournés en désastre. Il revint au réel, souleva une nouvelle pile de parchemins.